Les lectrices, les lecteurs de Lire et Faire Lire, offrent aux enfants, enseignants et parents leur coup de cœur en littérature jeunesse. Voici des présentations d'albums ou de romans sélectionnés pour leur qualité bien sûr, mais aussi parfois pour leur originalité. Vous les retrouverez sur le blog de Lire et Faire Lire, https://lireetfairelire.laligue10.org, 10 en chiffres. Et sur le site de Thème Radio à la rubrique Podcast, bonne écoute et belle découverte.
Rachel Carson, Non à la destruction de la nature. Ce titre, paru aux éditions Actes Sud Junior pour les 12-13 ans, annonce clairement une biographie romancée. Et son sous-titre, aux allures de slogan, fait référence à la collection Ceux qui ont dit non, une sélection de romans historiques dirigée par Muriel Zack. Très vite considérée comme pionnière de l'écologie, Rachel Carson a publié en 1962 un livre, Printemps silencieux, qui a fait aux États-Unis et partout dans le monde l'effet d'un révélateur et entraîné à l'époque un débat public. Il alertait les consciences en dénonçant notamment les effets néfastes des pesticides, en particulier le DDT, jusqu'à son interdiction 10 ans plus tard. Ce court roman retrace le parcours et le combat de Miss Carson, de la petite fille curieuse des merveilles de la nature, à l'étudiante passionnée de biologie, notamment de biologie marine, jusqu'à la militante qui lutte dans un monde d'hommes pour faire publier ses travaux de femme scientifique. L'autrice, Isabelle Colomba, écrivaine, journaliste et même scénariste, a mis en scène son personnage dans un style souvent proche de la poésie, en écho à l'écriture de Rachel Carson elle-même. Elle a imaginé des extraits de son journal. En ce moment, tout fleurit et grandit. Dans les vergers, les branches des pommiers exhibent de gros bourgeons blancs qui font ressembler leur ramage à des têtes de grand-mères ébouriffées. Des pousses d'un vert bien tendre, des raides et des frisées, des frêles et des rugueuses sortent des sols un peu partout. Des fleurs éclosent dans la prairie et au pied des chênes rouges, des érables et des bouleaux jaunes. Des tas de bestioles semblent surgir de la terre tandis que des oiseaux sautillent et se balancent légers, légers entre ciel et terre. Ici, sur la colline, je me sens comme sur une île, à l'abri. Après quelques essais d'articles infructueux, Rachel Carson va faire paraître des ouvrages scientifiques traduits en de nombreuses langues. En 1951, « La mer autour de nous », dont les lecteurs apprécient la prouesse qui consiste à rendre poétique un livre scientifique. « S'il y a de la poésie dans mon livre, dit-elle, c'est parce qu'elle existe dans la nature. Il y a du beau, du merveilleux, du majestueux dans les vents, les marées et la mer. » Déjà lanceuse d'alerte en son temps, elle dénonce l'utilisation de la mer comme poubelle de déchets radioactifs. Malgré les épreuves, dont la maladie, le deuil et la charge familiale qui pèse sur ses épaules, elle va tenir tête à la caste masculine des hommes qui l'accusent d'insulter la science parce qu'elle ose en démontrer les abus. L'écoféminisme est peut-être né de ce constat que, pour empêcher la destruction de la nature, il faut aussi se battre contre le patriarcat. Maintenant que la paix est revenue, personne ne veut plus de mauvaises nouvelles. Et si le dichlorodiphényltrichloroéthane, le vrai nom du DDT, décrit partout comme un produit miracle pour éradiquer les poux, les moustiques ou les moucherons, crée de sérieux problèmes, eh bien on n'a pas envie de le savoir. Après avoir éliminé la menace japonaise en larguant la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki, tout le pays s'est mis en tête d'éradiquer les insectes, présentés comme une menace mortelle pour l'humanité si on les laisse nous envahir. On prédit même, si on ne fait rien, qu'ils vont nous exterminer, comme dans les films au cinéma. Une guerre totale chasse l'autre. Après la bombe atomique, la bombe insecticide, et peu importe que les dégâts puissent être irréversibles. Mais comment peut-on regarder cet énorme champignon blanc en apesanteur au-dessus du Japon sans penser aux poussières radioactives qui sont forcément retombées en pluie sur le sol? En employant la bombe atomique, on n'a pas seulement abattu un ennemi, on a rasé des paysages, anéanti des populations d'animaux, d'humains, de végétaux, détruit ce qui a mis des millénaires à se former et à éclore sur la Terre. Depuis, les catastrophes écologiques se sont multipliées, mais la mobilisation s'est développée dans la société civile pour s'opposer aux lobbies de la chimie. C'est toute une vision du monde, un modèle de société qui sont remises en cause. J'ai décidé d'écrire un livre sur les produits chimiques de synthèse. J'explique à mes voisins, parce que ces derniers temps j'ai reçu trop de lettres, de témoignages, de travaux scientifiques, de plaintes aussi devant les tribunaux, d'articles de journaux, de messages d'amateurs d'ornithologie ou de jardiniers du dimanche, qui tous m'alarment sur les effets des pesticides. Elle explique les hécatombes de rouge-gorge après des vaporisations d'insecticides. Des gens lui ont écrit qu'ils n'entendent plus les oiseaux chanter. Et c'est à ce silence que fait allusion le titre de son livre, qui paraît en 1962, Silent Spring, Printemps silencieux. Les idées de Rachel Carson vont gagner du terrain jusqu'au sommet de l'État. Le président Kennedy exige que l'utilisation des pesticides soit désormais réglementée. Cette victoire, elle aura à peine le temps de la savourer. Rachel Carson meurt prématurément en 1964. Et si sa lutte n'a pas toujours convaincu certains gouvernements de l'urgence d'agir, les défenseurs de l'environnement reprennent le flambeau derrière elle, celle qui attachait beaucoup d'importance à la transmission. Contempler la beauté de la nature et s'émerveiller des choses de la vie, même les plus infimes, devrait être la première mission des adultes quand ils sont avec des enfants. Notre capacité à saisir le merveilleux n'est-elle pas le meilleur remède à l'indifférence? Un antidote fabuleux même contre l'amertume et le désenchantement? La plupart des gens, en effet, traversent le monde en laissant tout leur échapper. Le plus beau cadeau de naissance serait d'offrir aux enfants une capacité d'émerveillement indestructible, cette faculté avec laquelle ils voient le jour et qu'ils perdent souvent avant même l'âge adulte. Plus ils sauront s'émerveiller devant la nature, moins ils auront envie de la détruire. Isabelle Colomba a récemment publié chez Albin Michel un autre livre consacré toujours à Rachel Carson pour grands ados. Le titre est « Rachel Carson, le monde a le droit de savoir ». Ce titre reprend le concept de Jean Rostand que Rachel Carson se plaisait à rappeler. L'obligation de subir nous donne le droit de savoir. Un prix international, Rachel Carson a été créé en Norvège en 1991. Il met chaque année à l'honneur des femmes dont le travail et les actions pour la défense de l'environnement font écho à son œuvre.
Eh bien, Roselyne vient de vous parler de la disparition des insectes et des oiseaux. Je vais enchaîner, moi, avec un livre de Véronique Ovaldé, La nuit du dodo. Et non, Véronique Ovaldé n'a pas écrit que pour les adultes. Elle a signé un livre pour la jeunesse avec La très petite Zébuline en 2006, un recueil de nouvelles intitulé La salle de bain du Titanic en 2009. Et son album Paloma et le vaste monde a obtenu la pépite du livre en 2015. Et voici un nouvel exemple avec La nuit du dodo pour la collection Les contes du muséum. Bob a bien de la chance. Il est le fils du gardien de nuit du Muséum national d'histoire naturelle. Lorsque tout le monde dort, il a le privilège de pouvoir explorer les bâtiments du muséum. Or, et c'est la première phrase du livre, tout le monde sait que les animaux des musées se réveille la nuit. Les adultes l'ont oublié, mais les enfants le savent bien. La nuit, il se passe des choses étranges. La journée, ils restent immobiles comme des statues de poils ou de plumes. Ils sont très doués pour ça, même si, en étant particulièrement attentifs et patients, on peut les voir bouger même de jour. Le flamant rose, par exemple, cet étrange échassier à la couleur étonnante, c'est parce qu'il mange des crevettes roses, qui passe sa vie sur une seule patte. Eh bien, si vous êtes capable de rester 10 heures de suite à l'observer au muséum, vous le verrez changer de patte. C'est très rapide. Vous vous demanderez même si vous n'avez pas rêvé. Vous vous direz, mais il était sur sa patte gauche tout à l'heure. Et aucun adulte ne vous croira jamais. C'est normal. Les adultes ont un peu peur des choses invisibles ou magiques. Il ne faut pas leur en vouloir. Quand on grandit, on est parfois obligé de se consacrer à des affaires plus pragmatiques. Pragmatique, ça a à voir avec la nourriture, le loyer ou la retraite. Mais la nuit, tous les animaux de la grande galerie de l'évolution sortent de leur vitrine, descendent de leur socle, se mélangent, se rencontrent, discutent, parfois se disputent, s'amusent. Tous, sauf un, le dodo, ce drôle d'oiseau aux toutes petites ailes et au gros bec, qui reste immobile et silencieux. Cela intrigue Bob jusqu'au jour où... Bob, comme à son habitude, est assis par terre, bien tranquillement, à grignoter des biscuits au chocolat en contemplant son animal fétiche. Hanuman, le cerf de Schomburg, qui se dégourdissait les pattes, aperçoit le petit garçon et lui dit en passant « Il ne peut pas te parler, il n'est pas vivant. »« Pas vivant ? Non, c'est une chimère. » « Une chimère ?» Bob a tendance à répéter ce que les gens ou les animaux disent quand il ne comprend pas. « Une chimère est un animal fabriqué à partir d'autres animaux. Ce dodo a été reconstitué avec des plumes d'autruche et de nandou, et il a des pattes d'émeu. Même son bec n'est pas vraiment son bec. Mais je ne comprends pas. » Hanuman trouve ce petit humain pas malin. Mais comme il est réputé pour sa patience, et surtout, je crois qu'il adore faire la leçon, il continue. Il ne restait plus aucun dodo sur la planète. Ils avaient tous été décimés. Alors pour montrer à quoi le dodo ressemblait, les humains en ont fabriqué un de toutes pièces. Il est totalement inventé. Ah mais non! Bon, allez, viens, suis-moi, je vais te montrer quelque chose. » Et le cerf emmène l'enfant dans les réserves du muséum, dans les sous-sols, là où sont entassés tous les animaux qui ne sont pas exposés. Et là, il découvre un magnifique squelette de dodo. Au début, Bob est un peu déçu. Il préférait son dodo emplumé du deuxième étage. Mais celui-ci saute de sa vitrine et vient à sa rencontre. Et c'est l'une des choses les plus magiques qui soient. Ce dodo qui agite ses minuscules ailes d'os, devenues presque noires avec le temps. Hanuman lève les yeux au ciel et lui dit d'un air suffisant. « Tu vois, dodo, même après tout ce qu'ils t'ont fait, tu continues à être content quand un humain débarque. » Dodo, un peu vexé, même un squelette peut avoir l'air vexé, se rebiffe. « Je suis confiant, mais pas idiot, Hanuman. Si tu m'amènes un petit humain, ce n'est pas pour qu'il m'égorge. D'ailleurs, il aurait bien du mal à m'égorger. » Dodo éclate d'un grand rire sonore. Il est enchanté d'avoir de la visite. Il dit qu'il y a trop de bruit dans cette petite pièce et propose à Bob d'aller faire un tour. « Je remonte, dit Hanuman. Tous ces volatiles me fatiguent. Tu lui montreras le chemin, Dodo. » Bob frissonne. Il va lui falloir faire confiance à ce squelette pour sortir du labyrinthe. Sinon, il va se retrouver à errer, il s'y voit déjà, pendant des jours et des jours, dans tous les couloirs et les sous-sols, avant d'être enfin retrouvé, tout desséché. Mais dès qu'Hanuman a fait demi-tour, Dodo se met à chuchoter. « Je ne sors jamais d'ici, et je n'ai pas beaucoup l'occasion de me dégourdir les pattes. Ça fait pas mal de siècles que je suis là avec tous ces affreux. » Il esquisse avec sa minuscule aile droite un geste affectueux vers les créatures qui cohabitent avec lui. « J'en ai assez, alors c'est toi qui vas me ramener à la surface. » Pardon ? Demande Bob, interloqué. Tu as vu à quoi je ressemble ? Penses-tu vraiment que je peux monter tout seul les 14 étages ? Je veux me mettre le bec dehors, c'est tout. Mais on dit que je suis trop vieux et trop fragile pour avoir le droit de sortir. Et puis, tu me dois bien ça. Tandis que Bob accepte de l'accompagner dans les étages, le dodo lui raconte son histoire. Lui et ses semblables vivaient dans la forêt sur une île depuis des millions d'années. Ils menaient une existence paisible jusqu'au jour où, à la fin du XVIe siècle, des navigateurs européens débarquèrent avec dans leurs soutes des rats, des cochons, des singes. Et tout ce petit monde, humain compris, trouva les dodos fort appétissants. Le dodo ne savait pas voler, n'avait jamais connu de prédateurs et donc ne se méfiait pas. Et c'est ainsi que l'espèce s'éteignit. À la fin du livre, une petite partie documentaire présente de façon plus précise et plus scientifique le dodo ou dronte de Maurice. Et surtout, un texte passionnant de Ben Warren, enseignant-chercheur au muséum, raconte la disparition du dodo et de 37 autres espèces de l'île Maurice. La collection Les Contes du Muséum, née en 2021, propose actuellement 7 titres, signés par des auteurs aussi célèbres que Marie Darrieussecq, Karine Thuil ou Éric Orsenna. Chaque livre est agrémenté d'un texte écrit par un scientifique du muséum qui présente les espèces évoquées. L'objectif de la collection, c'est de sensibiliser les plus jeunes à la préservation de la nature. Elle fait voyager les lecteurs dans l'univers du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, mais bien sûr aussi dans les contrées les plus lointaines.
Thème Radio.
Thème Radio, la plus locale des stations auboises.